Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 8 février l'an 2000 à Saint-Jean-d'Arc.
Vous nous avez dit que le rapport de la substance-principe à la substance première n'est pas du tout le même que son rapport avec la substance seconde. Pouvez-vous y revenir ? Est-ce que cela veut dire... C'est une première explication. Est-ce que cela veut dire que le rapport entre substance principe et substance seconde est moins direct ? Non. Il n'est pas sur le même niveau, tout simplement. Au niveau de la substance, les deux aspects du principe, substance sujet, substance seconde, sont-ils présents ? Quelle est la place de la substance seconde, détermination essentielle, dans l'autonomie de l'être ? Très bien. Alors, posez-vous la question, pourquoi Aristote a-t-il inventé le mot quidité ? C'est intéressant. Tout le monde le reconnaît. Aristote a inventé deux mots. Et pour moi, quand un philosophe invente un mot, et qu'il est conscient de cela, et qu'il le fait délibérément, c'est très significatif. Beaucoup moins aujourd'hui, parce que c'est rare que la philosophie soit sagesse, et parce que tant qu'elle n'est pas sagesse, elle prend les tournures artistiques ou logiques. Et elle n'est plus une recherche de la vérité. Mais quand elle est une recherche de la vérité et qu'elle est sagesse, inventer un mot, c'est quelque chose de très important. Ça prouve que le langage ordinaire ne peut pas montrer le caractère subtil que l'intelligence est en train de découvrir. Le mot « quidité » montre la différence qu'il y a entre la substance « principe » et la substance « seconde ». La substance « seconde » exprime la quidité de la chose. Donc, c'est du côté de l'intelligibilité. Et c'est par rapport à Platon qu'Aristote a inventé le mot « quidité ». C'est pour montrer que la forme a comme première fonction d'être un principe d'intelligibilité. La substance forme, donc la substance essence, la substance seconde, elle est principe d'intelligibilité. La substance est principe d'intelligibilité, mais la substance, au plan métaphysique, est principe d'être. Donc, quel est le rapport entre l'intelligibilité et l'être ? En voyant le rapport entre l'intelligibilité et l'être, vous voyez tout de suite le rapport entre la substance, principe, et la substance seconde. L'intelligibilité est propriété de l'être. Mais elle n'est pas l'être. Tandis que pour Platon, intelligibilité et être s'identifient. C'est pour ça que l'un est plus que l'être. Alors, Aristote a exprimé cette intelligibilité par un mot, quidité, qui exprime l'intelligibilité profonde de la réalité, l'intelligibilité première de la réalité, et conduit à découvrir l'être. Par l'intelligibilité, vous découvrez l'être. Et vous découvrez l'être comme au-delà de l'intelligibilité. Vous voyez ? L'appréhension saisit l'acuité, le jugement saisit l'être. L'appréhension, on saisit l'acuité des choses, les appréhensions, et puis l'être, les choses différentes. L'appréhension est toujours selon un mode universel, et le jugement saisit ce qui est jamais universel, qui est toujours concret. Donc, vous voyez là le rapport entre substance principe et substance seconde. C'est clair. Pierre, homme. Dès que vous dites, c'est Pierre, Pierre, ceci, et Pierre, au-delà de Pierre, le principe, ce par quoi, Pierre et Pierre. Le rapport de la substance principe et de la substance première, c'est le rapport qui existe entre l'intelligibilité, ce qui est principe d'être, principe d'intelligibilité, et la réalité concrète, Pierre. Pierre est sujet, Pierre est substance première. À Pierre, j'attribue toute chose, et Pierre, comme sujet, je ne l'attribue à personne. Il est ce qui est capable de recevoir toutes les attributions. Et ce qui est lui-même sujet qui reçoit toutes les attributions. Substance. Sujet est pris d'une façon concrète et non jamais d'une façon universelle. Alors, du point de vue intelligibilité, la substance principe est plus proche de la substance seconde. Du point de vue de l'être, la substance principe est plus proche du sujet. Vous voyez ? Donc, ça met en pleine lumière le premier dans l'intelligibilité et le premier dans l'ordre de l'être. Et ça montre que la substance principe est au-delà de cette distinction. C'est l'être. Vous voyez, tout le monde peut faire la distinction entre le sujet concret, qui t'appelle Pierre, ton nom c'est Pierre, et puis le point de vue abstrait, l'homme. Tout le monde peut se dire ça. Pierre est premier dans l'existence. Homme est premier dans l'intelligibilité. Qu'est-ce qui est au-dessus de la distinction existentielle, intelligibilité? C'est l'être. C'est la substance, principe propre d'être. Premier dans l'ordre de l'être. La substance n'est pas uniquement première dans l'intelligibilité, elle l'est. Elle n'est pas uniquement première dans l'ordre existentiel, elle l'est. Elle est première dans l'ordre de l'être. Et l'être comme tel est au-delà de la distinction existence-essence. Donc, ça précise, j'espère. Et ça répond à ce qui a été demandé ici. Je dis le rapport de la substance principe à la substance première n'est pas du tout le même que son rapport avec la substance seconde. Pouvez-vous y revenir ? Voilà. Et c'est important, il faut saisir ça. Donc si vous avez des objections, notez-les. Poussez vos objections jusqu'au bout en les écrivant. Une objection ne doit jamais rester uniquement au niveau de l'intelligibilité qu'on pense en soi. Il faut l'écrire. Puis dès qu'on l'écrit, on dit « Ah mais cette objection, mais c'est idiot. » Oui, ça concrétise. Ça oblige d'aller jusqu'au bout, d'écrire. Alors, il faut jouer intellectuellement. La sagesse entre ces trois substances premières, substances secondes, substances principes. Et comprendre que la substance principe est au-delà des deux contraires et qu'elle est la source de ces deux contraires. Alors vous voyez que par là, je supprime la dialectique. Comme méthode de pensée. Parce que la dialectique comme méthode de pensée reste toujours horizontale. Substance première, substance seconde. Elle ne monte pas. Elle ne va pas au-dessus. La saisie du principe dans l'ordre de l'être est au-delà de la dialectique, au-delà des opposés. Et c'est la pensée analogique. Ce n'est plus la pensée dialectique. C'était très curieux. Avec ces trois, on a les deux méthodes. Supprimer la substance première. Supprimer la substance principe. Il vous reste substance seconde, substance première. Opposée. Et dialectiquement opposé, le singulier, l'universel. Si vous découvrez la substance principe, vous vous élevez au-delà de l'opposition, de la contrariété, vous situez au-delà de la dialectique et vous entrez dans l'être. Et c'est l'être, dans son unité et dans sa diversité, qui me permet d'avoir une pensée analogique. La pensée analogique maintient les trois. La pensée dialectique n'en maintient que deux. Et c'est toujours comme ça. Autre objection, vous avez porté au dernier cours de la, vous avez parlé au dernier cours de la substance comme principe d'être et d'intelligibilité. Mais on sait fort bien que les deux principes où on les saisit à partir de notre expérience, c'est-à-dire à partir de l'homme qui est indivisible, c'est donc l'un qu'on trouve en premier dans un ordre de recherche. Pourriez-vous m'éclairer ? Non. Oui, j'avais pas lu. Et je vous parlais tout à l'heure de l'un. Si on ne saisit pas le principe de l'être, la substance, principe, on met l'un avant l'être. C'est l'un qui nous fait sortir de la dialectique. C'est très curieux ça. Et on reste encore dans la dialectique. on n'en sort pas vraiment. Dans Platon, c'est très net, l'opposition du concret et d'abstrait, l'opposition entre le sujet et l'attribut. Qu'est-ce qui est au-dessus des deux? C'est l'un qui est mesure des deux. Mais elle n'est pas, c'est pas du tout quelque chose qui est au-delà. C'est à l'intérieur de la substance première, à l'intérieur de la substance seconde, que suis-je l'un, selon deux modalités. La substance première est une, la substance seconde est une. Deux modalités de l'être, deux modalités de l'un. Il y a l'un indivisible, le sujet. Il y a l'un, l'acuité, l'essence. C'est deux modalités de l'un. Et je reste dans ces deux modalités de l'un. Ça ne me permet pas de sortir au-delà. Si je saisis la substance principe, je saisis la substance indivisible, comme principe d'intelligibilité et en même temps principe d'unité. La substance principe est une. Sa propriété, c'est l'unité, c'est l'intelligibilité. Je la saisis comme principe d'être. Mais très facilement, je glisse sur l'unité que je saisis dialectiquement. Vous voyez, substance première, substance seconde, deux modalités de l'un. Et ce n'est plus la substance que je saisis comme principe, mais c'est l'un. Et donc, c'est par la propriété et non plus par le principe que j'arrive à dépasser. On y reviendra à la question de l'un. Pourquoi la métaphysique doit aller jusqu'à l'être et ne peut pas s'arrêter à l'un? C'est une très, très belle question, ça. Si je suis platonicien, je m'arrête à l'un. Si je suis aristotélicien, je m'arrête à l'être. Alors, faites vos choix. Il faut toujours avoir la pensée platonicienne présente. C'est très important. On est tous platoniciens. On l'est tous. Et si on n'en a pas conscience, on est un mauvais platonicien. Si on en a conscience, on est un bon platonicien, on l'a dépassé. Et c'est très important de toujours se poser la question, que dit Platon? Que dit Platon là-dessus? Pour ne pas tomber dans le platonisme, Aristote invente quiddité. Et là, c'est très visible pour ceux qui ont fréquenté Platon et Aristote. Pour Platon, toute forme est intelligible et existe. Tout ce qui est intelligible existe. L'existence n'ajoute rien à l'intelligibilité et ne peut rien ajouter à l'intelligibilité. C'est pour ça que c'est la même chose de dire ceci et ceci est. Si vous dites que c'est la même chose de dire ceci et ceci est, vous êtes platonicien inconscient. Si vous voyez que ceci, c'est le premier substance seconde, ceci est substance première. Vous avez conscience qu'il faut dépasser Platon. C'est très intéressant. Vous savez, je crois qu'il y a une forme d'esprit platonicienne et une forme d'esprit aristotélicienne. Je crois vraiment. Il y a deux formes d'esprit. Il y a un esprit platonicien. Il y a un esprit aristotélicien. Alors, si on creuse, on voit qu'on arrive à cette différence. De maintenir la différence entre ceci et ceci est. Quand je dis qu'il y a deux formes d'esprit, notre intelligence, comme elle n'est pas simple et qu'elle est complexe, elle peut s'arrêter en route. Je reste à ceci. Ceci est Rousseau, ça vient par-dessus, ça s'ajoute, je perds ma simplicité. On voit très bien la tentation permanente de rester à ceci. Et que ceci est, c'est vrai, c'est la saisie dans le jugement. Je ne peux pas appréhender ceci est. Au point de vue de l'intelligibilité pure, c'est le ceci qui détermine. C'est pas « et », c'est le verbe. La différence entre le nom et le verbe, c'est des choses très simples, mais qui touchent la réalité dans ce qu'elle a vraiment d'essentiel. C'est donc là que l'on trouve en premier dans un ordre de recherche. Pas nécessairement. Je peux m'arrêter à l'un. Je dirais plutôt que l'un, c'est ce qui se manifeste plus. C'est plutôt ça. L'un se manifeste. Et encore, il faudrait voir la diversité de l'un. On le verra aussi. Ça fait partie de la philosophie, de la métaphysique de voir. La propriété de l'être, c'est là. L'être est intelligible, l'être est un. Et toutes les modalités particulières de l'être, ces modalités ont toujours des propriétés diverses du côté de l'un. Bon. Alors, avant de voir la substance quantifiée, l'individu, en nota bene, quelque chose de plus. C'est quelque chose qui n'est pas directement métaphysique, mais qui nous aide à mieux montrer ce qu'est la métaphysique. Et du côté de la manifestation pour nous. Posons-nous la question, qu'est-ce qui, dans notre esprit, est l'analogue de la substance ? Je dis bien l'analogue. C'est-à-dire ce qui est premier. La substance est première dans l'ordre de l'être. C'est les premières dans l'ordre de l'être et que tout ce qui est, est de l'être. Je vois qu'il y a des premiers de diverses manières et donc des analogues à la substance. Je crois que quand on fait la critique d'une philosophie, quand on lit un philosophe, on cherche ce qui en lui permet de saisir l'unité. Quand vous lisez un philosophe que vous ne connaissez pas, vous lisez tel chapitre, très intéressant. Tiens, c'est subtil, c'est intéressant. Vous avez ce grand chapitre, quelle est l'unité entre les deux et la diversité. Puis, en fait, vous avez tous les chapitres successifs et vous cherchez quelle est l'unité de cette philosophie. Dans la philosophie aristotélicienne, quelle est l'unité? C'est l'être. C'est le principe premier de l'être. C'est ça qui fait l'unité. Comme ce principe de l'être est d'une part la substance, d'autre part l'être en acte, j'ai deux unités. La philosophie d'Aristote, elle marche avec deux béquilles. Pas une seule. Il y a des philosophes aristotéliciens qui n'ont que la substance. C'est les essentialistes. Pratiquement, ils n'ont que la substance seconde. Et puis, il y a des philosophes qui n'ont que l'acte sans la substance. Mais en réalité, la philosophie d'Aristote a la substance et l'acte. Et ayant la substance et l'acte, elle a comme ultime principe, au-delà de sa recherche, la découverte de la sagesse de Dieu. Mais cette découverte de la sagesse de Dieu présuppose la découverte de Dieu, et Dieu, je le saisis comme un être qui me dépasse, dont je n'ai pas l'expérience directe. Donc, ce n'est pas lui qui fait l'unité. L'unité, elle est à l'intérieur de ma philosophie. Elle n'est pas extérieure. Donc, Dieu fait bien l'unité, mais au-delà de ma philosophie. À l'intérieur de ma philosophie, qu'est-ce qui fait l'unité? C'est l'être et l'acte. Ça c'est très important. Quand on lit un philosophe qu'on aime, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait l'unité? Qu'est-ce qui fait l'unité de ce philosophe? Est-ce qu'il marche à quatre jambes? Est-ce qu'il marche à deux jambes? Est-ce qu'il marche à une seule? Qu'est-ce qui fait l'unité de Platon? Qu'est-ce qui fait l'unité d'Aristote? L'unité d'Aristote, substance, être en acte. Ça, c'est net. Qu'est-ce qui fait l'unité de Platon? Ah, l'un et le bien. Il y a aussi deux jambes. Certains n'ont vu que l'un. Certains n'ont vu que le bien. Vous avez là deux formes de néoplatonisme très différents. Mais Platon, il a les deux. Vous ne pouvez pas ramener tout Platon à l'un. Il y a l'un et le bien. Et le bien est-il au-delà de l'un? Est-il au-delà de l'un? Peut-il se rappeler à l'un, se réduire à l'un? Non. Il y a l'un et le bien. C'est intéressant de voir ça. Et l'unité entre l'un et le bien est très différent. que l'unité qui existe entre la substance et l'être en acte, parce qu'entre la substance et l'être en acte, l'être est au-delà de la diversité. Donc, c'est l'être qui fait l'unité. Et Dieu n'est pas premièrement substance première, il n'est pas premièrement acte pur, il est l'être premier, absolu, subsistant. Chez Platon, je ne peux pas dire que l'un est au-delà du bien, et je ramène le bien à l'un. Je ne peux pas faire l'inverse. Il n'y a pas l'être au-dessus. Oui, je crois qu'il faut se rappeler ça. Alors, si ceci est vrai, je peux maintenant, dans la lumière de la substance, principe premier, principe propre de ce qui est en tant qu'être, dans la lumière de la substance, chercher les analogues à la substance, dans les diverses parties de ma philosophie, dans mes 7 parties de ma philosophie. Un excellent exercice, c'est très simple. En théologie naturelle, quel est l'analogue de la substance ? Dieu est la substance première. J'ai parfaitement le droit de dire que Dieu est la substance première. En métaphysique, j'ai la substance principe, principe propre, selon la forme. En philosophie du vivant, quel est l'analogue de la substance ? L'âme. Principe premier du vivant. L'analogue de la substance en philosophie de la nature, la nature. La nature est première dans l'ordre de la forme. La nature, selon la forme, est première. Pour le vivant parfait qui est l'homme, c'est son âme. L'âme est ma substance. Ma substance, c'est mon âme. Ce n'est pas mon corps. C'est mon âme. Et donc, le corps est toujours second, jamais premier. C'est l'âme. En éthique, en philosophie pratique, il y a éthique et politique. Quel est l'analogue de la substance en éthique ? Principe propre de ce qui est premier en éthique. L'éthique regarde tout sous le point de vue de l'opération humaine. Qu'est-ce qui est premier dans l'opération humaine ? Premier dans l'ordre de perfection, pas dans l'ordre génétique, dans l'ordre de perfection. C'est donc la contemplation. La contemplation, c'est l'opération la plus parfaite au point de vue humain. Dans l'ordre politique, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre politique ? La loi. de l'œil de la substance. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre artistique? L'idiot. L'idiot est analogue à la substance. Vous voyez, ces constellations, les différentes modalités, ce qui est premier selon la forme. Ça vous permet de comprendre que la saisie de la substance, au point de vue philosophique, est quelque chose d'essentiel. Toute ma philosophie, si je saisis vraiment ce qu'est la substance, va s'éclairer immédiatement et tout va se préciser. Je peux aller plus loin. Je pourrais me poser le problème, quel est l'analogue de la substance en critique ? La critique regarde tout sous le point de vue de la pensée. Je ne peux critiquer que ma pensée philosophique. Je ne peux critiquer que ma pensée de sagesse. Quel est l'analogue de la substance en critique? C'est le concept. Plus parfait. C'est donc la ratio mentis en critique. Je dois pouvoir ramener tous mes concepts philosophiques à la ratio mentis. J'ai un concept d'être. Je n'ai pas de concept de Dieu. C'est faux. Beaucoup de théologiens parlent de concept de Dieu. C'est faux. Il n'y a pas de concept de Dieu. Dieu, vous le saisissez comme le premier existant. Vous n'avez pas l'intelligibilité de Dieu. C'est négatif. Saint Thomas dit que les négations à l'égard de Dieu sont plus exacts que les aspects positifs. C'est plus sûr d'affirmer Dieu n'est pas corporel. Ça, c'est absolument sûr. Dieu n'est pas corporel. L'aspect négatif peut dire Dieu est infini. Quand je dis Dieu est infini, c'est analogique. L'infini en Dieu n'est pas l'infini de ma pensée. C'est sûr. L'infini en Dieu est totalement positif. Tout est positif dans l'infini en Dieu. Tandis que dans ma pensée, l'infini est premièrement négatif. Ce qui n'est pas limité. Alors, en attribuant à Dieu ce qui n'est pas limité, c'est vrai. C'est très juste de dire Dieu n'est pas limité, donc Dieu est infini. Mais c'est négatif. C'est l'aspect négatif qui l'emporte. Donc, en critique, la ratio entis, le concept d'être, concept analogique d'être est le concept le plus fondamental, le plus radical qui soit. Confondre la substance et le concept d'être, c'est confondre la critique et la métaphysique. Confondre la substance et la contemplation, c'est ramener la métaphysique à l'éthique. Les analogies, les différences analogues de la substance montrent les diversités des diverses modalités de la substance. Et si je confonds une de ces modalités avec la substance, je ramène la métaphysique à cette modalité particulière de ma pensée. Celui qui ramène la substance à l'idée, à l'idéa artistique. L'idéa artistique. Quelle est l'idéa artistique la plus parfaite, la plus profonde? Est-ce que je peux dire qu'un artiste va plus profondément qu'un autre? L'idéa profonde d'un Rembrandt. L'idéa profonde d'un autre artiste que Rembrandt. Si vous prenez un flamand, autre que Rembrandt, lequel est plus parfait au point de vue artistique. Il n'y a pas d'ordre. Chaque artiste a son idéal qui pour lui est plus parfaite que tout le reste. Et pour les autres, la qualité de cet artiste, c'est ça. C'est là où je saisis le mieux son génie, ce qu'il a de plus génial en lui. Et ordinairement, lui ne pourra pas le dire. Il est dépendant des autres, du jugement des autres. C'est la souffrance de l'artiste. Il livre son secret en faisant la. En peignant, en sculptant, il lit son secret, il donne son secret, il le manifeste, et les autres discutent. Je crois que c'est important de regarder l'aspect substantiel de chaque partie de la philosophie, et ce qui permet de dominer, de passer avant tous les autres, et que tous les autres sont relatifs à celui-là, sont relatifs à ce premier. Qu'est-ce qui relativise tout en éthique? C'est la contemplation. Et ça, en philosophie réaliste, c'est sûr, c'est la contemplation. Et ça ne peut être que la contemplation, puisque c'est la connaissance de ma finalité. Sens vrai de ma finalité. Et tout se relativise à partir de là, en éthique. Et c'est la même chose pour toutes les parties de la philosophie. Jusqu'à la logique, qui est à la fois un art et une philosophie. Est-ce que l'universel ne joue pas ce rôle particulier dans logique, universel. Je crois. Ce n'est pas la ratio entis, la raison d'être. Ça, c'est le point de vue de la critique. Mais c'est la propriété de cette raison d'être qui est l'universel analogique. Ce n'est pas l'universel univoque, c'est l'universel analogique. Or, vous avez chez beaucoup de logiciens, des quantités de logiciens, vous avez l'universel. Chez tous les logiciens, vous avez l'universel. Mais chez certains, il n'y a que l'universel logique, et chez d'autres, l'universel univoque. voyez la différence entre les deux. Premier, Pierre est un homme. Paul est un homme. Grégoire est un homme. Homme est attribué univoquement à Paul, Grégoire et ainsi de suite. Tandis que analogique, c'est tel attribut qui est attribué différemment selon chaque attribution. Pierre existe, il est. Paul existe, il est. Mais il n'est pas comme Pierre. Il est différent de Pierre. Et je dis il est. Donc, au point de vue de l'attribution, c'est le même mot, mais il est attribué diversement. C'est par là qu'a commencé, qu'on a commencé à découvrir que c'est que l'analogie. C'est dans les attributions diverses et les mêmes. Les mêmes quant aux mots, diverses quant à la signification. Pierre existe, Grégoire existe. Pierre existe de telle manière, Grégoire existe de telle autre manière. La manière d'exister de Pierre n'est pas celle de Grégoire. Et pourtant, tous les deux existent. Oui, dans l'existence, vous trouvez une diversité. Et dans l'existence, vous trouvez quelque chose de semblable. Alors, vous avez une attribution analogique. C'est la fameuse parole d'Aristote en disant que l'être est dit polakos, est dit de diverses manières. Donc, il est analogique. Le bien est analogique dans son attribution. Ce cheval est bon, cet homme est bon, ce chien est bon. La bonté du chien n'est pas la bonté de l'homme, heureusement, pour l'homme. La bonté du juge n'est pas la bonté de l'homme. La bonté d'une table n'est pas la même que celle du chien, et ainsi de suite. Et c'est toujours la bonté. Il y a quelque chose de semblable. Il y a un tikoinon. Un tikoinon. Il y a quelque chose de commun dans homme, table, chien. Et il y a quelque chose de divers, pas de la même façon.